Radio Mieux-Être. CJLV AM 1570. Donc, nous sommes de retour à l'émission Vos rêves vous parlent avec Jean Gagliardi. Nous entamons une deuxième heure. Et je vous donne à nouveau les numéros de téléphone. Nous aimerions vous entendre. Est-ce que vous avez déjà eu des rêves prémonitoires? Est-ce que vous faites souvent le même rêve? Vous vous questionnez à savoir qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le but de cette émission, on l'a un peu dit. En fait, c'est de dire que les rêves ne sont pas là par hasard. Les rêves sont l'expression d'une tension intérieure, d'un vécu intérieur très riche. Et finalement, Jean, on pourrait dire qu'on a tout intérêt à s'éveiller à la dimension du rêve.
Absolument. En fait, plus largement, on pourrait dire qu'à chaque fois qu'il y a un rêve, c'est qu'il y a quelque chose qui réclame de devenir conscient. Il y a quelque chose qui veut parvenir à notre conscience. En étudiant les rêves, de près, on se rend compte que les rêves participent du processus de création de conscience. Notre conscience ne vient pas de nulle part. Notre conscience naît de quelque chose qui est tout à fait inconnu, qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient, c'est ce dont on n'est pas conscient. Et c'est comme s'il y a des choses qui se préparent dans notre inconscient et puis qui, quand elles sont mûres, elles apparaissent un peu comme une graine pousse sous terre et tout d'un coup elle va percer et elle va commencer à donner une plante qui fleurit. Alors le rêve participe du processus de création de conscience.
Je vous redonne les numéros de téléphone si vous voulez dialoguer, parler à Jean Gagliardi au sujet des rêves, soit des questions qui touchent un peu la physiologie du rêve, soit l'interprétation des rêves. Donc, toutes les questions sont bonnes. On vous invite à nous téléphoner au 450-680-1570 et le numéro sans frais 1-866-895-3142. Donc, oui, Jean. Donc
oui, je veux inviter les auditeurs, en effet, à téléphoner pour partager éventuellement des rêves prémonitoires ou préparatoires, comme on parlait, ou des grands rêves. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Les petits rêves aussi sont tout aussi intéressants. Il y a quelque chose de vous faites vraiment un cadeau aux autres auditeurs quand vous partagez un rêve. J'ai l'expérience d'animer très fréquemment des groupes, des cercles de rêves, et une des choses que on remarque d'une façon étonnante dans ces cercles, c'est que à chaque fois qu'une personne partage un rêve, toutes les autres personnes présentes en retirent quelque chose. C'est encore une des démonstrations de l'existence de ce fameux inconscient collectif. C'est qu'en fait, nous, êtres humains, nous nous ressemblons. Nous avons tous quelque chose d'absolument unique, mais de la même manière que nous avons tous deux bras, deux jambes, deux yeux. En tout cas, génétiquement, nous sommes préformés pour ça. Il peut y avoir évidemment des fois des accidents qui font que le programme génétique ne peut pas s'accomplir parfaitement. Mais nous sommes tous préformés physiquement comme ça. Et bien, de la même façon, psychiquement parlant, nous avons les mêmes besoins. Nous avons les mêmes archétypes, disait Carl Jung, nous structurent. Les archétypes, ce sont les grandes forces qui apparaissent aussi bien dans les contes de fées, dans les mythes et dans l'histoire, et qui vivent à l'intérieur de nous.
Les matériaux de l'inconscient ?
Les matériaux de l'inconscient. Et les archétypes, c'est par exemple, ça fait que nous sommes tous liés inconsciemment à différents personnages de la mythologie, des contes de fées. Il peut y avoir la Belle au bois dormant qui est en train d'attendre au coin de la rue que la lumière devienne verte pour traverser. Et pendant ce temps-là, il y a Perceval qui est au volant de sa voiture et qui observe la Belle au bois dormant et se demande s'il ne lui proposerait pas un lift. Nous avons tous ces personnages vivent en nous. Ils ne sont pas que dans les histoires, dans les films. Ils vivent en nous. Et ils vivent en particulier aussi dans nos rêves.
C'est des modèles de comportement qui se répètent depuis des générations et des générations et qui, je dirais, c'est un peu comme les traces dans lesquelles on retombe sans trop le vouloir, mais qui sont tracées déjà. C'est vraiment ça, hein? on parle d'archétypes, mais c'est des comportements qui se présentent à nous et qu'on achète spontanément.
Mais on achète, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils nous donnent une base. Alors, l'expression que tu as employée, Jean, est extrêmement juste. C'est exactement ce qu'en disait Carl Jung, qui disait que les archétypes sont comme un lit de rivière qui a été creusé par les millénaires. Mmh. Et la rivière ne peut pas faire autrement que d'emprunter le lit de la rivière et de continuer son chemin par là. Mais à chaque instant, la rivière continue à creuser son lit et y amène des nouvelles choses. Donc les archétypes sont notre mémoire psychique ancestrale pour toutes les expériences humaines et au-delà de l'humain même, puisque par exemple, un de ces archétypes les plus fondamentaux, nous avons tous été des enfants et nous avons tous eu une mère, ou du moins une relation à des référents maternels. Et donc, par exemple, l'archétype de la mère est un archétype absolument universel, ouais. Divinisé dans certaines cultures, et jusque dans la nôtre avec la Vierge Marie, mais aussi divinisé, vous savez, vous connaissez tous ces tatouages, hein, toutes des salopes sauf maman. C'est encore l'archétype maternel qui se manifeste. L'archétype de la mère, depuis la nuit des temps, il y a des mères. Il y a des mères qui ont des enfants, qui rencontrent des préoccupations maternelles vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leur croissance, qui perdent malheureusement des fois des enfants, qui ont à vivre cette douleur terrible. Et cependant, ce n'est jamais la même chose d'une époque à l'autre. Exactement, d'être mère. Ce n'est pas la même chose pour une femme du 21e siècle d'être mère que pour une femme dans les années 60. Une mère au 21e siècle va se confronter aux jeux vidéo et à tout ce genre de choses qui ne posaient aucun, qui n'étaient pas dans l'horizon de ce qui pouvait préoccuper une mère des années 60. Ouais. Et plus largement, pour reconnecter avec le début de notre discussion, au tout début de l'émission sur les animaux, rappelons-nous ce qui nous rapproche des mammifères, c'est le fait que les mammifères ont un comportement maternel, donnent la tétée à leurs petits et ont un instinct maternel. Donc les archétypes sont en lien avec les instincts et sont dans le prolongement de ces instincts. Et par contre, nous avons la tâche de chacun inventer nos propres réponses aux situations qui nous arrivent. Et d'une certaine façon, nous apportons par là notre contribution à l'évolution de l'espèce. À chaque fois que nous rencontrons une situation particulière, il y a des archétypes qui nous offrent la mémoire ancestrale de comment l'humanité a réagi depuis toujours à ces événements. Et notre tâche à nous, c'est de trouver la réponse qui est vraiment appropriée à notre situation, à ici et maintenant, en 2015. Et nous allons enrichir la mémoire collective pour leur fournir d'autres éléments à nos descendants.
Jean, tu parlais de rêves comme ça qui nous indiquent le chemin vers l'accomplissement plus total de soi. Ça voudrait dire, en quelque sorte, pour prendre l'exemple de la mère, c'est la mère qui n'est pas vraiment une bonne mère ou qui n'est pas dans son rôle de mère, si on peut dire, ou qui a oublié qu'elle était mère, ou je sais pas, il y a toutes sortes de variations. Le rêve va lui rappeler, en fait, cette idée-là d'être maternante ou d'accomplir sa nature de mère, ou la même chose peut-être pour quelqu'un qui a le sentiment, je dirais, de rater sa vie. Alors, cette personne-là, est-ce qu'elle va rêver qu'elle est un héros ou une héroïne? Donc, est-ce que c'est un peu dans cette visée-là, ou est-ce que le rêve, c'est un peu ce qui nous rappelle à soi, ou...
Alors, en effet, le rêve est ce qui nous rappelle à l'essentiel. Alors, il y a plusieurs aspects dans ce que tu dis, Jean. D'un côté, en effet, par exemple, si je reprends juste la fin de ce que tu disais, une personne qui a le sentiment de rater sa vie peut tout à fait rêver qu'elle est Superman pendant la nuit. Et ça, c'est la dimension compensatoire du rêve.
Qui avait été apportée par Freud, je me souviens bien.
Oui, et Jung aussi. Les deux avaient compris que le rêve avait une dimension compensatoire. Et de toute façon, on doit donner du crédit à Freud pour son travail sur les rêves.
Donc, mon patron m'engueule pendant la journée. Je rêve la nuit que je l'assomme avec un bat de baseball.
Voilà, et c'est une façon de signaler que ce qui s'est passé avec mon patron vient me toucher particulièrement et que même si j'ai baissé la tête devant lui, en réalité, au fond, je n'ai qu'une envie, c'est de trouver une batte de baseball à lui casser sur la tête. Ou, encore une fois, par exemple, si je reprends l'exemple d'une personne qui rêve qu'elle est Superman, alors que de jour, elle a le sentiment de rater sa vie, ça lui rappelle comment, quelque part, il y a une profonde ambition et comment elle n'est pas contente de sa situation, comment elle ne l'accepte pas, cette situation, dans laquelle elle n'est pas reconnue pour toute sa valeur.
Encore le non-dit qui s'exprime dans le rêve.
Encore le non-dit qui s'exprime. Par rapport à ce que tu disais sur la mère et la mauvaise mère, il faut faire très attention avec ces termes-là.
Tout à fait.
Parce que les rêves peuvent aussi dire qu'on a le droit d'être une mauvaise mère ou un mauvais père, qu'on ne peut pas être parfait en tout, et que c'est une folie que de vouloir être absolument parfait en tout. Ouais. Alors, les rêves vont d'une certaine façon nous ramènent à ce qu'on appelle la voie du milieu. Si on va trop à gauche, il nous ramène à droite. Si on va trop à droite, il nous ramène à gauche. Si on oublie, je vais parler plutôt en tant que père, n'est-ce pas ? J'ai plus de facilité à parler de la paternité que de la maternité. J'ai une expérience directe de la paternité. Je ne tiens pas compte de certaines choses qui seraient importantes à faire en tant que père. Si je me comporte comme un homme qui, finalement, si je vivais ma vie comme si je n'avais pas d'enfant, il est fort probable que mes rêves viendraient me rappeler précisément que j'ai des enfants et viendraient me titiller à ce sujet-là, comme pour me dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu oublies une part essentielle de toi-même, tu abandonnes tes enfants. Et là, par exemple, je pourrais avoir des rêves où il y a des enfants abandonnés et où je passe d'une façon indifférente devant eux, ou au contraire, je me sens porté à voler à leur secours. Et c'est la nature compensatoire du rêve qui vient montrer que quelque part, au fond, même si je me donne plein de bonnes raisons de ne pas m'occuper de mes enfants, il y a quelque chose qui me poussera à le faire,
qui me le rappelle. Oui.
Mais à l'inverse, il se peut que je résume ma vie à être père. Que je me définisse comme un père et que ce soit la seule chose qui importe dans ma vie. Et il est tout à fait possible qu'à ce moment-là, mes rêves me rappellent que je ne suis pas qu'un père. Je suis aussi un homme et avec une vie professionnelle à vivre. Et que je n'ai pas à faire supporter à mes enfants le fardeau de toujours me justifier en me permettant d'être leur père et de ne vivre qu'avec ça. Et donc ça, c'est tout aussi vrai pour la mère. Au fond, les rêves vont tout le temps nous amener à corriger les déséquilibres qu'il peut y avoir dans notre vie. J'en reviens à la notion de la voie du milieu, dont Lorient dit bien que c'est la voie de l'éveil. La voie du milieu, c'est la voie qui consiste à concilier les contraires en marchant au milieu du chemin. Et dès que nous allons trop à gauche, encore une fois, le rêve nous ramène à droite. Dès que nous allons trop à droite, le rêve nous ramène à gauche, parce qu'il nous invite à marcher au centre. Et au centre, ce n'est pas, comment dire, le centre est dynamique, on peut pas marcher au centre en se tenant tout le temps au centre. C'est comme si on marchait sur un fil et qu'on oscillait. On oscille un peu à gauche, un peu à droite, un peu dans l'ombre, un peu dans la lumière, un peu dans l'inconscience, un peu dans la conscience. Et le rêve facilite ce tissage entre les opposés pour les réunir tout le temps au centre.
Donc le rêve fait de nous des êtres plus balancés.
Plus équilibrés et plus complets. Parce qu'avec le rêve, nous récupérons tout le temps ces parties de nous dont nous ne tiendrions pas compte consciemment pour différentes raisons. Par exemple, j'en reviens là, alors cet homme qui est préoccupé seulement par la dimension professionnelle et qui ne voit pas ses enfants grandir, il se donne peut-être comme explication qu'il fait tout ça pour sa famille, pour ses enfants, et il rêve que la nuit ses enfants viennent frapper à sa porte, veulent lui parler, veulent aller marcher avec lui au bord du lac, et lui rappelle que s'il veut être un homme complet, c'est magnifique ce qu'il accomplit sur le plan professionnel, pour sa famille, pour ses enfants, mais qu'il doit aussi leur donner du temps. Et pas seulement pour ses enfants, mais pour lui-même, pour qu'il puisse vivre vraiment sa dimension paternelle, pleinement.
Donc, vous aimeriez peut-être, je m'adresse aux auditeurs, donc si vous voulez parler à Jean Gagliardi de vos rêves, en fait, on vous invite à nous téléphoner au 450-680-1570, 450-680-1570, et le numéro sans frais de partout au Québec, 1-866-895-3142. C'est fort intéressant, cette idée-là, que finalement, on néglige peut-être trop la dimension onirique, en fait, quand on sait qu'on passe le tiers de notre vie à rêver, à dormir, et que se cache dans cette partie d'ombre ou de sommeil vraiment tout un enseignement et puis des ressources inépuisables.
De mon point de vue, tant qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe pendant la nuit et dans nos rêves, c'est comme si on vivait à la surface de notre vie. Et c'est comme si le monde était plat. Il est plat en trois dimensions, mais il n'a pas de profondeur. Et quand on commence à prêter attention à nos rêves, et plus largement finalement à ce qu'on sent, à notre vie intérieure en général. Et je ferai une parenthèse pour dire que les rêves ne sont évidemment pas la seule façon d'accéder à notre vie intérieure, et que les rêves sont connectés à des activités comme la méditation, la créativité artistique, l'intuition, et toutes ces choses-là. Et que toutes les voies pour nous contacter à l'intérieur sont bonnes. Il y a des gens pour qui le rêve, le travail du rêve, le travail avec les rêves, c'est la meilleure façon. Il y en a d'autres qui préfèrent passer par d'autres voies, et c'est très bien aussi. Mais tant que nous ne contactons pas l'homme ou la femme intérieure que nous sommes en dedans, c'est comme si nous vivions une vie à l'extérieur de nous-mêmes, et c'est comme si nous vivions dans un monde sans profondeur.
J'ai une question fondamentale pour toi, Jean. Est-ce que c'est le cerveau qui sécrète les rêves?
Grande question. Il semblerait, au prime abord, du point de vue des neurophysiologistes, puisque on enregistre dans l'activité cérébrale, quand les personnes rêvent, ce qu'on parlait, le sommeil paradoxal, on enregistre une activité cérébrale très intense. Et cependant, on s'est aperçu que la mémoire du rêve est dans le corps, et non pas dans le cerveau. On a des preuves expérimentales de ça. On va, par exemple, en reprenant certaines positions qu'on avait pendant la nuit. Si on s'est endormi au début de la nuit, couché sur le flanc droit, et puis qu'on se réveille couché sur le flanc gauche. Si on tourne très très doucement, faut pas aller trop vite avec nos rêves, et qu'on va se mettre sur le flanc gauche, donc sur le flanc sur lequel on s'est endormi, il est fort possible, ça arrive très souvent, qu'on se souvienne tout d'un coup d'un rêve du début de la nuit, qu'il remonte. Il est lié à une position corporelle. Où on a aussi ces exemples de rêves qui remontent au cours d'une séance de massage. On a des rêves qui remontent au cours d'une séance dans laquelle le corps est sollicité à un endroit. Il y a une douleur, on masse à cet endroit, et tout d'un coup, il y a une image associée qui remonte et qui parle de cette douleur.
C'est fascinant. Ça revient à dire que la conscience et partout dans le corps.
Absolument. Moi, c'est ma thèse, c'est ma conviction personnelle. Hein. Il n'y a pas de preuve définitive, mais ma thèse personnelle, c'est que le cerveau n'est que qu'une restriction de notre conscience. C'est ce qu'on pourrait appeler notre cerveau, c'est le lieu de notre conscience restreinte, et le corps, c'est le lieu de notre conscience globale. D'ailleurs, c'est à tel point que quand il se passe quelque chose autour de nous, notre cerveau n'est capable d'enregistrer qu'une toute petite portion de l'information par rapport aux événements qui nous entourent. On a fait des tests pour ça, et là je vais parler comme un informaticien. Mm-hmm. On sait que le cerveau ne processe consciemment que 2000 bits d'information par seconde, alors que notre conscience totale est capable de processer 4 millions de bits d'informations par seconde. C'est-à-dire que c'est un rapport au carré. Et une des preuves expérimentales que vous avez de ça, c'est, vous savez, vous êtes témoin d'un accident, et puis il y a plusieurs témoins, on interroge chaque témoin, et chaque témoin a une perception différente de ce qui s'est passé.
Ouais.
Mais si, maintenant, on plonge ces témoins sous hypnose, et qu'on a la chance d'avoir des témoins qui sont des gens facilement hypnotisables, parce que ça, c'est encore une autre question, et on se rend compte qu'il y a une mémoire bien plus riche et bien plus profonde de ce qui s'est passé, qui a été enregistrée. Et qu'éventuellement, la personne sous hypnose est capable de raconter tous les détails de la situation, énormément d'éléments qui n'étaient pas parvenus à sa conscience, et même, par exemple, est capable de mentionner une conversation qui se déroulait de l'autre côté de la rue, qui était couverte par le bruit des voitures, mais que son corps a entendu distinctement.
Donc, toute cette matière-là non processée, c'est également ça qui se retrouve dans les rêves.
C'est ça qui se retrouve dans les rêves, c'est ce qui se retrouve dans l'inconscient, encore une fois, ce qui n'est pas conscient, et ce qui remonte dans les rêves parce que c'est utile. Parce qu'encore une fois, si ça remonte dans les rêves, c'est qu'il y a quelque chose là qui est intéressant et important pour nous. Hein? On pourrait dire que le cerveau fonctionne comme un filtre qui est essentiellement orienté vers notre survie. Alors notre cerveau conscient trie l'information pour ne porter à notre conscience que l'information qui nous est immédiatement utile. Et dans la nuit s'opère un deuxième filtrage qui fait que remonte l'information qui peut nous aider à évoluer, à devenir de meilleurs humains, plus conscients, plus entiers, plus complets, plus équilibrés.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la quête vers l'inaccessible étoile?
On pourrait dire ça, tout à fait.
Excellent, on va écouter la chanson.
Rêver un impossible rêve, rentrer au chagrin des départs, brûler une possible fièvre. Déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Malheureux brûle encore, bien qu'ayant
Ici Dolores Lamarre, je vous invite à écouter mon émission La Voix du lâcher-prise le dimanche à 10h et en reprise à 20h. Votre direction bonheur à Radio Mieux-Être, CJLV 1570.
Radio Mieux-Être, un rendez-vous avec la vie. Alors, de retour à l'émission Vos rêves vous parlent, et si vos rêves vous parlent, il faut savoir les écouter. Toute la question est là. Jean, parle-nous, en fait, parce qu'en fait, toi, dans la vie quotidienne, tu fais de l'analyse des rêves, tu reçois des gens en consultation privée. On peut d'ailleurs découvrir tes activités sur ton site web. Veux-tu nous parler un peu de ton travail et aussi du site web, tout ça?
Ben, j'ai plusieurs sites. Je parlerai simplement. Les gens qui sont vraiment intéressés au travail des rêves, je les invite à visiter mon blog La Voix du Rêve, qui est à l'adresse http://voixdurêve.blogspot.ca. Mais puisque tu me tends la perche, Jean, je vais parler de mon dernier bébé, un site web D'accord. que je viens de lancer sur le thème « Créer votre vie de rêve ». Qu'est-ce que c'est que notre vie de rêve, hein? Ce serait la vie la idéale, la vie la plus riche et la plus complète que nous puissions vivre. Et dans ce site, au travers d'ateliers que je propose au travers de ce site, ouais. Je propose de mettre ensemble la fameuse loi d'attraction. Qui est bien connu, qui intéresse beaucoup de gens, et que Jung connaissait sous le terme de la synchronicité, c'est-à-dire quand il se produit des événements à l'extérieur qui sont en rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Donc la loi d'attraction, la synchronicité avec la psychologie des profondeurs. Parce que je suis convaincu, pour ma part, que d'une certaine façon, dans ce monde, il n'y a rien sans rien, n'est-ce pas ? Il y a toujours un prix à payer. Et que si nous voulons vivre une vie vraiment riche, vraiment complète, vraiment équilibrée, ben il y a un prix à payer en termes de conscience. Et donc, justement, le travail des rêves, le travail des profondeurs, le travail de ce qu'on appelle l'ombre, est une étape extrêmement importante pour pouvoir vivre notre vie de rêve. Mmh. Alors, pour plus d'informations, ben, je vous invite tout simplement à visiter mon site web www.créevideerêve.com. Mmh. Créer, C-R-E-E-Z, vie de rêve, V-I-E-D-E-R-E-V-E.com. Vous y trouverez de l'information sur donc une façon peut-être novatrice, peut-être un petit peu révolutionnaire, de travailler avec la loi de l'attraction, ouais. avec donc notre ombre, nos vulnérabilités, pour faire de nos ombres nos alliés, pour faire de nos vulnérabilités notre richesse, et pour dégager le chemin, pour permettre, dirait-on, à l'univers de nous aider à vraiment vivre notre vie de rêve.
Et quand tu parles de vie de rêve et de l'ombre, je me dis, en fait, l'ombre, c'est un peu ce qui donne de la profondeur au paysage intérieur. Et
exactement. Si vous regardez, si vous imaginez que l'ombre disparaissait de nos vies dans le monde extérieur, immédiatement nous perdrions tout le relief. Les choses n'auraient plus de profondeur. Et bien, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que l'ombre ? L'ombre, ce n'est pas nécessairement négatif, même si souvent dans l'ombre se retrouvent tous les sentiments négatifs que nous ne voulons pas vivre. Mais l'ombre, plus généralement, dans les termes de Carl Jung, c'est tout ce qui voudrait participer à notre vie, mais auquel nous ne permettons pas de vivre. Et souvent, dans notre ombre, il y a non seulement des sentiments négatifs, D'accord, on nous a appris à par vivre, par exemple, notre colère, et on a refoulé notre colère, elle se retrouve dans l'ombre. Mais le plus extraordinaire, c'est que souvent, c'est notre partie la plus géniale, la plus lumineuse, la plus brillante
qui
se retrouve dans l'ombre.
Et tu vois, Jean, je t'écoute, et ça, j'ai le nom de Nelson Mandela qui me résonne en tête, parce que Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui a vécu à l'ombre, qui était emprisonné et qui a vécu beaucoup de souffrance et de rage et qui en a fait vraiment...
Et qui l'a transformé en conscience.
Absolument.
Et qui est vraiment passé de, justement, qui est un modèle de vie, qui a su justement comme ça transformer tout ce qu'il avait de rage et de violence en conscience et qui en a fait un modèle. Et il a, d'une certaine façon, sauvé son pays. C'est-à-dire que quand il est sorti de prison et qu'il est devenu président de l'Afrique du Sud, il a, par son simple charisme et par le travail intérieur qu'il avait fourni, il a été capable d'amener une réconciliation, d'éviter que ça tourne à un bain de sang. Et c'est très intéressant que tu mentionnes ça parce que il y a une citation, en fait, de Marianne Williamson, mais qu'on prête très souvent à Mandela parce que
il l'a lu
lors de son discours d'investiture. Malheureusement, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne pourrais pas la relire, mais il dit, et c'est exactement le principe du travail sur une vie de rêve que je propose, il dit que ce qui nous fait le plus peur, fondamentalement, ce n'est pas de montrer nos côtés négatifs. Nous savons tous que nous en avons. Mm-hmm. Ce qui nous fait vraiment le plus peur, c'est de montrer combien nous sommes brillants, combien nous avons de la lumière à l'intérieur, combien nous avons des bonnes choses à apporter. Et pourtant, si nous voulons contribuer à améliorer le monde dans lequel nous vivons, c'est la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est de lui apporter le cadeau que nous sommes. Ouais. C'est de lui apporter la lumière que nous avons à l'intérieur de nous. Et Marianne Williamson, donc reprise par Nelson Mandela, dit qu'à chaque fois qu'un être humain surmonte sa peur et accepte de vivre enfin la lumière qui porte à l'intérieur de lui, eh bien, il donne un exemple qui permet à d'autres êtres humains de vivre à leur tour leur lumière. Mmh. Eh bien, c'est exactement ça, c'est vraiment le but, non seulement du travail sur la vie de rêve que je propose, mais plus profondément, du travail sur soi, ou je préfère encore même dire le travail avec soi, c'est-à-dire le travail avec tout ce qui est en nous, pour plus de conscience, mm-hmm. pour une vie plus complète, pour une vie plus équilibrée.
Oui. Jean, on revient tout à l'heure, tu parlais du rêve, naturellement, chez l'être humain, mais aussi chez les animaux.
Oui, merci de me ramener à ce sujet, parce que je veux en effet ne pas le perdre de vue. J'avais commencé avec ça, et même si cette émission est un petit peu décousue comme un rêve, comme les rêves, elle a sa cohérence. Mmh. Et avant de terminer, je veux parler de quelques petites choses bien intrigantes à propos des rêves et des animaux. Donc déjà, comme je le disais, nous sommes beaucoup plus proches que nous le croyons de nos cousins mammifères. Ouais. Nous rêvons tous. Et je l'ai mentionné en début d'émission, l'être humain n'est pas le plus gros rêveur. De très loin, puisque, par exemple, un être humain rêve environ 2 heures par nuit. Mmh. Un chien rêve environ 3 heures par nuit. Un chat rêve plus de 3 heures, 3 heures et quart, 3 heures et demie par nuit. Enfin, quand je dis par nuit, vous savez ce qu'il en est avec les chats. Ils confondent la nuit et le jour, ils dorment à toute heure. Ça leur permet, ça leur laisse le temps de rêver. Et bien sûr, il y a une corrélation entre le nombre d'heures de sommeil et le nombre d'heures de rêve. En règle très générale, nous rêvons un quart du temps de notre sommeil. Mmh. Et nous rêvons selon des cycles, c'est-à-dire que nous rêvons dans la nuit, nous les êtres humains, quelques minutes toutes les heures et demie. Ouais. Et chaque espèce a ses propres cycles comme ça. C'est intéressant de savoir que, à revers, un lapin qui pourtant dort beaucoup ne rêve moins d'une heure par cycle de 24 heures. C'est vraisemblablement lié au stress que vit le lapin qui n'a pas de moyens de défense et qui doit tout le temps être en vigilance au cas où il y aurait un prédateur qui se présenterait. Et puis, il y a une exception à la règle qui voudrait que plus on dort, plus on rêve, et c'est le paresseux. Okay. Le paresseux dort 17 heures par cycle de 24 heures, mais il ne rêve qu'environ une heure. Mmh. Alors que l'opossum ou le tatou géant sont les champions du rêve, toutes catégories chez les mammifères, ils dorment environ 18 heures et ils rêvent 5 à 6 heures par cycle de 24 heures. Finalement, si le tatou et l'opossum sont les champions du rêve, la vache est certainement le mammifère connu qui rêve le moins, puisque dans un cycle de 24 heures, une vache ne rêve que 20 minutes. Mais je voulais vous parler des animaux parce que je voulais vous parler de l'énigme que représente le dauphin.
Okay.
Le dauphin a deux cerveaux comme nous, un cerveau droit et un cerveau gauche. Et il se trouve qu'il y a tout le temps un de ces cerveaux qui est éveillé et un autre de ses cerveaux qui dort. Okay. Vous savez que le dauphin est un mammifère marin, il respire comme nous et il a besoin de se maintenir à la surface de l'eau. Et pour se maintenir à la surface de l'eau, il a un cerveau qui est sans arrêt éveillé. Et cependant, c'est très surprenant, l'autre cerveau, pendant ce temps, dort et les deux cerveaux alternent leur temps de sommeil. Mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que quand on fait faire des électroencéphalogrammes aux dauphins, on n'est pas capable de détecter une activité onirique comme la nôtre. Ce qui se passe, ce qui est très étrange, c'est que c'est comme si le cerveau qui dort du dauphin était tout le temps en train de rêver, okay, ou presque tout le temps. Comme s'il n'y avait pas des cycles comme nous en avons, mais que ce cerveau est tout le temps dans une activité en communication avec l'autre cerveau qui, lui, est éveillé.
Comme si sa vie était un rêve éveillé.
Oui, tout à fait. Et je signale que c'est l'accomplissement auquel parviennent certains yogis, les gens qui travaillent le yoga du rêve et qui en viennent finalement à dire que notre vie à nous aussi est un rêve. Alors ça pose une grande question qui peut interroger beaucoup de gens. Est-ce que les dauphins ne seraient pas finalement l'espèce la plus évoluée sur cette planète ?
Fort intéressant.
Mm-hmm. En tout cas, il se trouve que c'est la seule espèce qui n'a pas de prédateur. Ils jouent tout le temps. Ils communiquent d'une façon extraordinaire entre eux. À notre différence, ils ne construisent pas de cathédrale, ils ne font pas d'attentats dans les journaux de caricaturistes. il leur manque donc des choses visiblement par rapport à nous, mais on peut se poser cette question. Il y a des visionnaires qui ont déjà déclaré que, en réalité, si les extraterrestres venaient sauver l'espèce la plus évoluée sur notre planète, ce n'est pas aux humains qu'ils s'intéresseraient, mais ce serait aux baleines et aux dauphins. Et cet élément tout à fait particulier sur le cerveau des dauphins est très intriguant et on se demande si l'être humain sera un jour capable, dans quelques millions d'années, d'avoir un tel niveau de coopération entre ces deux cerveaux. Mmh. Un cerveau qui rêve en permanence, un cerveau qui est éveillé et qui processe l'information venant du monde extérieur.
Mmh. Fort intéressant. Jean, on a retrouvé cette petite citation dont tu parlais tout à l'heure qui avait servi à Nelson Mandela dans une de ses allocutions. Donc, une citation de Marianne Williamson. Si vous ne connaissez pas Marianne Williamson, c'est une auteure américaine fort intéressante qui a beaucoup écrit. Et ben voilà, on va t'écouter, Jean. Alors,
Oui, je vais me faire le plaisir de lire cette citation que Marianne Williamson a écrit donc dans un livre qui s'appelle « Retour à l'amour ». Juste pour préciser un petit peu qui est Marianne Williamson, c'est une personne qui a travaillé à vulgariser énormément le courant miracle, qui est lui-même un texte inspiré, tout à fait étonnant. Et Marianne Williamson, un jour, découvert ce texte-là, on pourrait dire qu'il lui est rentré dedans, ça a transformé sa vie. Et depuis ce moment, elle consacre son existence à le diffuser, mais en fait à le diffuser sous une forme non pas vulgarisé, non pas simplifié, mais rendu plus accessible. Et Marianne Williamson écrit le texte suivant, qui est un texte, de mon point de vue, extraordinaire. Elle dit « Notre plus grande peur n'est pas d'être insuffisant. Notre plus grande peur est d'être fort au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour me considérer comme quelqu'un de brillant et d'extraordinaire, plein de talents fabuleux ? Mais qui es-tu, toi, pour ne pas te considérer ainsi ? Tu es un enfant de Dieu. Te maintenir petit ne sert à rien, le monde. Il n'y a rien de beau à se faire tout petit, pour que les gens autour de nous ne se sentent pas mal à l'aise. Nous sommes tous destinés à rayonner, comme le font les enfants. Nous sommes tous nés pour exprimer la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Et en laissant rayonner notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Quand nous vivons libérés de notre peur, naturellement, notre présence libère les autres.
C'est fantastique, c'est vraiment un très grand texte.
C'est un texte qu'on devrait étudier dans les écoles,
ouais.
Je crois sincèrement. C'est un texte qu'on devrait donner à lire aux enfants, juste à ce moment, vous savez, où ils perdent cette innocence qui leur permet de rayonner, où ils commencent à se préoccuper de comment les autres les voient, de s'ils sont conformes au groupe, à la gang et tout ça. C'est un texte que nous devrions tous et toutes apprendre par cœur et nous répéter tous les jours devant le miroir. Et c'est un texte qui nous inspire à travailler avec nous-mêmes, avec soi, en permanence, à ne pas arrêter d'aller chercher le trésor qui est enfoui dans nos profondeurs, dont, encore une fois, les rêves nous rappellent le souvenir, nous les remontent, et pas seulement les rêves, il y a tellement, tellement, tellement de façons d'aller rencontrer ce trésor à l'intérieur.
Un appel à l'individuation dont parlait Carl Jung, le grand psychiatre suisse.
C'est exactement ça. L'individuation est souvent mal comprise. On assimile individuation et individualisme et c'est tout le contraire. Jung disait que l'individualisme, c'est une individuation qui a mal tourné parce que c'est quelqu'un qui se coupe du monde, qui se coupe des autres. L'individuation, c'est devenir l'individu complet, entier que nous sommes et aussi unique, aussi complètement unique, c'est-à-dire que chacun, chacune de nous apporte une couleur, un parfum spécifique sur Terre. Et chacun de nous représente un cadeau qui a été fait à cette planète. Et notre personnalité en est l'emballage. Et c'est en allant creuser à l'intérieur de cette personnalité que nous ouvrons le cadeau et que nous le déballons enfin, que nous le livrons au monde et à notre propre vie. Et c'est le but du travail avec soi, c'est le but du travail pour avoir une vie de rêve et c'est le but du travail avec les rêves.
Mmh. Et le cadeau, c'est à nouveau le présent, le moment présent?
Le cadeau est toujours dans le moment présent. Voilà, exactement. Le cadeau, on peut être sûr qu'on met la main dessus quand on ressent de l'amour, dans l'instant présent. Mmh. L'amour est dans l'instant présent, et quand on ressent de l'amour pour un autre être humain, pour un arbre, pour le soleil, pour la vie, nous commençons à rayonner, nous sommes dans l'instant présent, et nous sommes le cadeau. C'est en tout cas la conclusion auquel m'a amené personnellement le travail des rêves. C'est une conclusion provisoire, mais dont je suis certain qu'elle ne va faire que s'enrichir, pas se démentir.
Est-ce qu'on peut dire, dans ce sens-là, que l'écoute de cette dimension intérieure, des rêves que l'on fait la nuit, nous désencombre d'une certaine image qu'on se fait de soi?
Exactement. Exactement. Vous savez, le fameux ego dont parlent tellement les traditions et dont font se débarrasser, c'est normal d'avoir un ego, c'est une image que nous avons de nous-mêmes. Le problème, c'est que nous nous y identifions. On nous a dit, quand on était enfant, qu'on était ceci, qu'on était cela. On en a tiré des conclusions sur nous-mêmes. Je suis ceci, je suis cela. Et cependant, les rêves viennent montrer qu'on est toujours plus que ceci ou cela. Et au fond, tout le travail qui se passe avec les rêves, qui est le même travail qui se passe avec la méditation, les deux sont liés. C'est un travail qui permet de désidentifier la conscience de la pensée et la conscience de l'ego. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte que oui, on a bien cette image de nous-mêmes qui correspond à notre éducation, à notre expérience et tout ça. Mais tout d'un coup, on se rend compte qu'on est beaucoup plus vaste que cette image, qu'on est bien plus large que cette image, que finalement, nous contenons toute l'humanité, nous contenons non seulement nos ancêtres, nous contenons tous les êtres humains finalement qui sont sur la planète à l'instant même, que nous sommes tous un représentant de l'humanité, une facette de l'humanité.
Interreliés beaucoup plus qu'on le croit.
Encore une fois, c'est exactement ça. On est tous interreliés. Ou, comme le disait encore plus fondamentalement Madame Christiane Singer, qui était une grande auteure spirituelle, elle disait « La merveille, c'est quand on se rend compte que nous portons tous les autres à l'intérieur de nous. Chacun de nous porte tout l'univers, tous les autres à l'intérieur de nous. Donc, nous sommes un seul être. » D'une certaine façon.
Un seul être, un seul rêve.
Un seul être, un seul rêve de multiples facettes.
Mm-hmm. C'est hyper intéressant. L'idée de savoir aussi que ça ne s'arrête pas à notre petite personne, mais qu'on est beaucoup plus vaste, comme tu nous dis si bien, même à travers cette citation de Marianne Williamson.
Voilà, et ce serait finalement, ça peut conclure un peu notre émission d'aujourd'hui, et ça répond, ce serait notre réponse au drame dont on parlait au début de l'émission, c'est que quand on travaille sur soi, on ne travaille pas d'une façon isolée, on ne travaille pas que pour régler nos petits problèmes, encore qu'il soit tout à fait important de nous en occuper, de les prendre en charge, de les prendre en conscience. C'est que le travail sur soi rejaillit sur tout ce qui nous entoure. Il rejaillit sur nos proches, il rejaillit sur notre communauté, il rejaillit sur le monde dans lequel nous vivons. Finalement, vis-à-vis, en face de drames comme celui qui s'est déroulé dans les locaux de Charlie Hebdo hier, nous pouvons tous nous poser la question, qu'est-ce qu'il y a en moi qui permet qu'une telle horreur arrive? Est-ce que je peux aller vérifier que je ne contribue en rien à une telle horreur? Et ça nous oblige donc, il y a une obligation de conscience à aller voir qu'est-ce qui se passe en nous, à éviter de continuer à alimenter la division en reprochant aux autres ce qui se passe. Mais en allant travailler en nous, avec soi, sur soi, à devenir de meilleurs humains, plus conscients, et par là, à aider l'évolution, non seulement notre évolution individuelle, mais notre évolution collective.
Mm-hmm. Donc, de la conscience à tout prix.
Et ce serait... c'est vrai que je pourrais dire que le travail du rêve va avec une religion de la conscience, dirait-on. C'est-à-dire que c'est la valeur sacrée, c'est la valeur la plus importante, c'est celle qui sauve.
J'aime mieux une spiritualité de la conscience.
Alors, je suis bien d'accord pour ça, une spiritualité de la conscience.
Oui, ouais, parce qu'en fait, la spiritualité, c'est pas une institution, c'est pas une église, c'est une façon de vivre, un état d'être.
Absolument, et par religion, je voulais simplement mentionner le caractère sacré de la conscience.
Mm-hmm.
À quel point elle a un caractère sacré. On peut penser que l'univers... travaille depuis 20 milliards d'années, la Terre depuis 4 milliards d'années, pour permettre à la conscience d'éclore. Mmh. Et j'aimerais inviter chaque auditeur, chaque auditrice à réaliser qu'il, elle est un miracle de, par le fait même d'être consciente qu'il a fallu 20 milliards d'années d'évolution universelle, plusieurs milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre pour créer un niveau de conscience aussi élevé que le nôtre. Et ce n'est pas fini. Nous avons besoin de continuer à évoluer. Et les rêves nous amènent tous les jours, toutes les nuits, pour être plus précis, des éléments pour continuer à évoluer, pour évoluer en conscience, pour devenir de meilleurs humains.
Donc, la lumière au fond du rêve.
La lumière au fond du rêve, la lumière au fond des ténèbres, alors, mais qui se met à briller dans le rêve.
Mmh. Donc, et plus la lumière, plus l'obscurité est dense, plus la lumière est vive.
Et oui, c'est pour ça que peut-être que dans les temps difficiles, il est particulièrement important de prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit encore une fois nos intuitions, nos rêves, tout ce qui nous vient de l'intérieur et qui témoigne de la présence, pourrait-on dire, d'une étincelle divine qui cherche à se manifester, d'une lumière qui cherche à parvenir au monde.
Bien, merci Jean.
Alors, merci Jean.
On se retrouve la semaine prochaine à pareille heure. Alors, à bientôt.